Alors on va enchaîner avec Nicolas Tixier, prof ici à l'école d'archi, membre de longue date du laboratoire Cresson, qui va nous parler, comme j'avais dit tout à l'heure, de où on est maintenant. Alors d'une manière, ça croise son travail sur les écologies métropolitaines. Il reprend le travail de Ray LeBannon, critique d'architecture, qui a beaucoup travaillé sur Los Angeles, qui est dans les nouvelles aujourd'hui avec une écologie métropolitaine très particulière. De prendre cette approche et regarder la ville de Grenoble avec ses plaines, ses pentes. C'est quoi le troisième ? Les rivières ? L'eau ? Ouais, la question de l'eau avec Grenoble. On va parler de l'eau là. Et aussi avec une attention aussi au passé, pas comme une sorte d'histoire morte, mais comme le passé comme ressource pour penser à la fois le présent et le futur. Alors il va nous faire un peu un rétro-prospectif de Villeneuve, de ce parc et ce projet de la ville nouvelle.
Merci Marc. Voilà. Alors, comme vous allez travailler sur le parc de la Villeneuve, moi j'ai eu la chance d'être étudiant ici il y a déjà quelques années, et c'était un espace naturel pour nous de travail, la Villeneuve de Grenoble. Donc voilà, par différentes façons, avec différentes personnes, j'ai été amené à travailler sur ce quartier, et donc je vais essayer de vous en faire une lecture, mais une lecture qui est quelque part personnelle. Un quartier comme la Villeneuve qui est gigantesque, il y a énormément de lectures possibles. Peut-être parmi vous, il y en a d'ailleurs qui le connaissent très bien, et ça sera l'occasion de compléter, de nuancer, ou même contredire ce que je vais raconter. Donc, c'est ni une histoire officielle, ni une histoire complète, mais c'est plutôt 6 ou 7 petites histoires qui vont vous raconter, peut-être différemment, ce qui se passe dans ce parc, et qui n'est pas forcément visible, encore que. Alors, c'est pour ça que vous savez que la Villeneuve, c'est un énorme lieu d'expérimentation urbaine. Mais peut-être ça cacherait, cette expérimentation urbaine, d'autres éléments ancrés dans le lieu qui ne sont pas opposés à cette expérimentation urbaine, mais qui peut-être sont moins lisibles aujourd'hui. Donc c'est une petite tentative aussi de vous proposer quelques écologies oubliées du sud grenoblois et de regarder la Villeneuve comme territoire d'expérimentation. Alors, pour démarrer, eh bien, on va reprendre la question des sons des enfants. Ici, vous voyez des jeux pour enfants, on est en 82. Je vais vous faire écouter un son, c'est un des tout premiers sons des études du Cresson. On est en 82, le Cresson a été créé en 79. Donc c'est un son qui est issu d'une recherche qui s'appelle « Sonorité, sociabilité, urbanité », qui était dirigée par Jean-François Augoyard et dans laquelle il y avait Grégoire Chelkov qui interviendra tout à l'heure. Et donc, on va commencer tout simplement par écouter la Villeneuve. On est au 6e, 7e étage et on donne sur une crique dans laquelle il y a des jeux pour enfants.
3e séquence sonore de l'Arlequin, AR3. Les sons publics perçus dans l'espace privé. 4 fragments sonores. 1er fragment, jeu d'enfants dans la crique du numéro 30. Entendu depuis le 9e niveau du 30.
Voilà, je vais m'arrêter là, mais des caractéristiques assez simples à identifier d'un point de vue sonore. On est bien dans un quartier de ville, mais ça ne sonne sans doute pas comme n'importe quel quartier de ville. Tout simplement, il y a des enjeux, il y a des sonorités un peu différentes. D'abord, on a accès au lointain. Ce n'est pas évident d'avoir accès au lointain dans la ville, le lointain sonore. Mais on a aussi accès à des sons qui sont très clairement discrétisés dans l'espace. Ils sont là, ici et là, etc. Il y a des enjeux de réverbération aussi. On sent la réverbération des lieux, etc. Donc, quelle sonorité nous propose un quartier ouvert sur un grand parc? Est-ce que ces sonorités ont évolué? Vous avez dans le logiciel Cartophonie, dont une partie de l'équipe ici a réalisé, ces archives sonores qui nous permettent d'écouter les sons à la Villeneuve il y a maintenant plus de 40 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 20 ans. Donc, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, quelles seraient les sonorités singulières, en fait, de cet espace-là? Alors, cet espace, évidemment, il est singulier pour des milliers de raisons. D'abord, il est singulier parce que c'était une véritable utopie urbaine qui a été créée au début des années 70, à un moment donné où la ville de Grenoble était pilotée par un maire socialiste qui s'appelait Dubedou et qui a eu cette volonté d'urbaniser les quartiers sud. Alors, volonté qui est assez ancienne, hein, qui date quasiment des années 20. On voit les premiers plans dans les années 20 de volonté d'urbaniser les quartiers sud. Paul Mistral supprime les remparts de la ville commence à se construire, Henri Bernard, un autre urbaniste, continue à faire des projets de dessin du sud grenoblois jusqu'à Échirolles, mais c'est que l'agence d'architecture AUA qui a concrétisé ce projet par la Villeneuve de Grenoble, dont vous avez ici dans les premières couleurs qu'elles avaient, qui ne ressemblent pas du tout aux couleurs actuelles. Et la série photographique que vous allez voir m'a été fournie par Marion Paris, qui est la fille d'Honoré Paris, qui était un habitant et photographe aux toutes premières heures de la Villeneuve. Donc c'est des documents qui commencent à circuler, mais qui sont assez rares, et ça nous montre une Villeneuve, vous allez le voir, en chantier. Alors, cette Villeneuve de Grenoble, Jean-François Augoyard, le fondateur du Cresson, avait fait son doctorat dessus, et il en dit dans son doctorat quelques phrases qui permettent, je trouve, de dire ce qu'était la Villeneuve à ce moment-là. La Villeneuve, c'était un peu la ville ouverte, un endroit où on pouvait refaire sa vie. C'est l'idée qu'ici, on pouvait s'y installer, on avait le droit de citer, que l'on arrive dans notre pays parce qu'on est réfugié politique, que l'on est une femme célibataire ou une femme avec un enfant tout seul, qu'on est une personne âgée, qui veut un endroit où il y a des ascenseurs et on peut aller au commerce, je dirais, sans monter les escaliers, que ça soit énormément de gens qui trouvaient ici, en fait, un premier logement ou un second logement et dans lequel il y avait une belle utopie qui était de se dire qu'avec une nouvelle ville, on pourrait avoir une nouvelle vie. Évidemment, cette utopie, elle est pour partie déçue, mais pas complètement, et ceux qui habitent voient encore dans la Villeneuve beaucoup d'éléments concrets de cette sociabilité originale. Alors, c'était une sociabilité originale qui était fort liée à un fort municipalisme, puisque c'est véritablement une volonté municipale, et avec un investissement qui, à l'époque, était aussi fort dans le bâti que dans le social. Il y avait des animateurs, des éducateurs, des accompagnateurs de vie, des accompagnateurs de structures sociales, etc., etc. Donc, c'est un peu ça dont je vais vous parler aussi comme expérimentation, à la fois une expérimentation urbaine et architecturale, mais aussi une expérimentation sociale, dont il reste sans doute des traces, beaucoup de traces d'ailleurs, encore. Alors, pour ceux qui sont architectes, il y a un débat, c'est est-ce que la Villeneuve appartient à ce mouvement moderne, ou est-ce qu'au contraire, la Villeneuve vient prendre un peu un nouveau contre-pied du mouvement moderne, on va dire, caricaturé peut-être par nous, par les travaux de Le Corbusier. Il y avait cette volonté dans l'AUA, qui était un collectif fortement communiste, quand même de faire autre chose que ce que la charte d'Athènes avait promu, puisque là, on n'est pas dans des bâtiments qui sont au milieu d'un parc, avec de la verdure autour, mais on a un parc au cœur des bâtiments. On a des dispositifs de séparation de voirie, mais qui ne viennent pas isoler les gens, etc. Donc, quand on relit les discours d'époque, c'est intéressant parce que il y avait une double volonté. La première, c'était de sortir de l'histoire de la rue classique, la rue qui fait les villes, à l'époque caractérisée comme les nuisances des voitures, etc., etc. Mais aussi, quelque part, d'un certain schématisme un peu trop fonctionnaliste qui était proposé par l'architecture moderne. Donc la Villeneuve, vraiment un territoire à revisiter sur de multiples raisons. Alors, voici deux brochures qui montrent la façon dont la Villeneuve était communiquée au moment même de sa construction. Et je crois que pour comprendre ce qu'est la Villeneuve, il est mieux de regarder quelques-uns de ses dessins. Là, c'est une brochure... Alors, il faut savoir que là, on est à Grenoble, mais si vous faites 150 mètres, ou 300 mètres, on est à Échirolles. Donc ça, c'est la Villeneuve de Grenoble, qui est ici. Mais 300 mètres de ce côté, c'est la Villeneuve d'Échirolles, qui a été conçue comme un tout, mais dans des temporalités différentes et un peu avec des acteurs différents. Et là, ce que vous allez voir, en fait, c'est à la fois, vous voyez, ce mélange d'univers de production d'espace de vie, avec, très vite, des dessins d'architecture et d'urbanisme, qui là, sont tous d'un architecte qui s'appelle Henri Siriani. Et ça, c'est des dessins préparatoires au projet. Donc le projet est un peu différent pour ceux qui connaissent la Villeneuve. Vous avez ici toute une série de dessins formidables, mais le projet est un peu différent. Parmi les idées qui sont restées, c'est bien entendu ces immeubles dans lesquels il y a des duplex, des triplex, et qui reprennent un peu le jeu des montagnes. C'est l'idée qu'au pied de chaque immeuble, on gagne en épaisseur par des équipements publics, et c'est l'idée qu'on circule dans des coursives à étages, ce qui permettait d'aller d'un immeuble à un autre et d'aller de la Maison de la Culture qui a été créée 6 années avant, plus au nord, jusqu'au grand centre commercial qui a été créé en même temps que la Villeneuve, plus au sud. Alors ce système de coursives a petit à petit été démoli, et malheureusement, et donc aujourd'hui on ne peut plus traverser comme ça sur quasiment, je sais pas, peut-être 2 kilomètres, l'ensemble du territoire, mais c'était ce qui faisait son originalité. Et puis son originalité, c'était cet immense parc au cœur, cet immense parc dont là vous avez au cœur de la Villeneuve, avec là le plan masse. Là vous avez, nous on est ici environ actuellement, alors c'est toujours un peu compliqué parce que c'est le plan du projet, nous on doit être par là environ. Et là, vous avez le parc tel qu'il était prévu. Et là, c'est la Villeneuve des Chirolles. Alors, voici première chose. Mais alors, maintenant, je voudrais faire un focus uniquement sur le parc. Parce que ça va être votre lieu de travail. Ce parc a été conçu par un paysagiste célèbre qui s'appelle Michel Corajou. La conception date du début des années 70. Et le parc est vraiment merveilleux et il continue d'être merveilleux. Mais en 1980, Michel Corajou fait paraître un texte qu'il écrit, qui est une forme d'autocritique de ce qu'il a produit. Et c'est une autocritique dans laquelle il dit à la fois du bien, là vous n'avez qu'un extrait, du bien de son parc, mais en même temps il dit, il s'est passé quelque chose. Au moment où je dessinais le parc de la Villeneuve de Grenoble, j'étais fasciné par les paysages ruraux, par les campagnes anciennes, où l'arpentage et le travail des champs restent soumis aux contingences d'un pays. Paysage superbe et singulier, parce que la géographie locale et la géométrie rapportée du paysan ont depuis longtemps les mêmes rapports complices. Le trait régulier du labour y laisse encore une place aux accidents et aux circonstances. Je voulais donc que le projet du parc transfère d'une manière ou d'une autre sur cet espace laissé libre de toute construction certains signes et figures capables de témoigner de l'attachement que j'ai, bien que citadin de longue date, pour mon histoire paysanne. Pour montrer ce qui m'intéresse aujourd'hui, je dois nécessairement faire la critique de ce parc. Je ne renie pas mon intérêt pour la campagne, elle est sans doute le référent majeur de tous les paysagistes latins, mais je considère cependant que la manière dont je l'ai transposé sur le site de Grenoble relève de la création ex nihilo, c'est-à-dire d'un système de projet qui considère le sol où il s'installe comme une page blanche. À cette époque, l'idée de nouveauté l'emportait sur tout autre critère, ce qui explique pourquoi on a nommé ce quartier la Villeneuve. Or, ce terrain avait une histoire dont il portait les indices visibles, les anciennes pistes d'un aéroport, les limites de parcelles des jardins ouvriers, etc. Et je dois reconnaître que mon projet a largement contribué à l'effacement de ce réseau de signes. Je sais donc aujourd'hui que j'ai trahi la notion que je prétendais défendre, celle de l'antériorité du site, de la contingence et de la circonstance. Alors ce parc, qui a évidemment une énorme qualité, a été construit à partir de deux principes. Vous allez le voir, on est sur des terres marécageuses. Donc, premier principe, ramener de la terre pour pas être proche du niveau de l'eau courante. Donc, la Villeneuve a été construite avec plus d'un mètre de terre rapportée de partout. Mais surtout, construire un parc, on va dire, nouveau ou artificiel, avec les terres de remblai des bâtiments. C'est l'ensemble des collines que vous allez voir ici. Alors ce parc, et c'est un objet dont vous aurez sans doute à discuter si vous rencontrez des gens, etc., a un espace encore plus singulier, plus petit que le parc, c'est un lac. Donc un lac artificiel, qui est un lac dans lequel il y a sa d'eau environ, qui est très très grand. Là vous voyez une image d'un radeau construit, on est en 1974, et là c'est une image de 2023. C'est un lac qui est extrêmement symbolique pour la Villeneuve parce que vous allez voir, il nous permet peut-être de relire trois écologies oubliées en fait pour ce territoire-là. Mais pour l'instant, j'en dis pas plus. Donc, trois écologies peut-être oubliées pour ce lieu. Donc, cette fois-ci, on va plutôt faire une coupe historique du parc de la Villeneuve. Premièrement, avant d'être un parc, c'était une plaine alluviale. Puis une plaine agricole, et enfin un moment d'utopie urbaine concrète. Plaine alluviale, Grenoble, le sud de Grenoble, c'est le cône de déjection du Drac qui vient sur l'Isère, et qui fait que toute cette partie-là, où là il y a une rivière qui s'appelle la Grèce, là une autre qui s'appelle la Romanche, plus le Drac, viennent complètement rendre un territoire du sud complètement marécageux, humide, plein de marais. Dans les années 1700 à 1800, il est décidé de canaliser le Drac, de canaliser l'arrivée de la Romanche, et pendant 100 ans, d'assécher tout le sud grenoblois. En asséchant tout le sud grenoblois, en fait, on rend les terres habitables par rapport à des marais, mais en même temps, on les rend peu cultivables s'il n'y a pas d'eau. Du coup, deuxième période, on vient amener sur le territoire du sud grenoblois des canaux, des kilomètres de canaux qui viennent de la dérivation du canal de la Romanche et qui viennent parcelliser l'ensemble du sud grenoblois pour transformer en terre maraîchère devenue le véritable interland nourricier de la ville de Grenoble. Donc la nourriture, elle est directement du sud grenoblois au centre-ville de Grenoble. Et en même temps, les boues, les caca, etc., venaient faire l'eau de Grenoble, venaient faire les engrais pour le sud grenoblois. Donc une conquête spatiale assez radicale, puisque assèchement pendant 100 ans de la terre pour pouvoir reconstruire des canaux. Et puis quelque part, pacifier l'usage de la terre en la parcellisant et en faisant une réglementation liée à la distribution de l'eau. Troisième histoire, vous la connaissez, c'est celle que je viens de raconter, c'est l'urbanisation du sud grenoblois qui s'est fait à nouveau par une recouverte du sol qui nie les deux histoires précédentes, puisque l'urbanisation des villes neuves vient complètement se superposer, mais en effaçant, l'histoire de la plaine alluviale et l'histoire de la plaine agricole. Voici le même carré, mais aujourd'hui. Hein. On est ici. Alors, juste pour le plaisir, grâce à un ami historien de Nicker, on a retrouvé une grande carte de... Alors, c'est toujours compliqué sans souris. On a trouvé une grande carte de Grenoble de 1732, au moment où, en fait, la ville décide justement de canaliser le Drac. Là, on est avant, en fait, la canalisation du Drac. Ça, c'est le projet de canalisation que vous avez. Alors, vous pouvez le voir un peu avec les différents traits rouges, etc. C'est un des premiers projets. Et vous voyez, ici, vous avez les marais et Chirol. En fait, on est exactement ici aujourd'hui. On est même là, en fait. On est exactement sur la zone des marais. Et donc, ce territoire qui était un territoire d'eau... Alors, comment on fait pour zoomer ? Ouais, comme ça. Voilà, vous voyez des petits cours d'eau de partout, en fait, sur le territoire. Mes petits cours d'eau qui aujourd'hui sont presque pour la plupart busés et passent sous Grenoble pour une partie, ou alors ils ont été complètement supprimés, et puis des immenses terres marécageuses. Et donc, grâce à Marc Higgin, qui est là, on a retrouvé cette carte, qui est une carte du début du siècle, de l'ensemble des canalisations qui ont été faites sur le sud grenoblois, enfin d'une partie, puisque le sud grenoblois, c'est un peu plus grand que ça. Alors, c'est pas tout à fait simple, mais en gros, la ville de Grenoble, elle est ici. Et donc, c'était un territoire qui était parcellisé agricole, avec énormément de canaux. Et ces canaux, ce qui est intéressant, c'est que ces canaux, en fait, on en trouve peu de photos, parce que photographier des canaux agricoles, c'était pas vraiment une priorité des photographes de l'époque. On trouve peu d'archives sur le monde agricole, on trouve des comptes, mais on trouve peu d'archives de documents, on trouve des archives urbaines, mais pas du monde agricole. Et donc, c'est dans les tableaux, celui-ci est au musée de peinture à Grenoble, dans les tableaux que l'on trouve traces de ces canaux et de la façon dont ils venaient gouverner l'ensemble du territoire. C'était des canaux qui se géraient avec des systèmes de blocage et de dérivation. Vous allez me dire, mais c'est comme un Camargue. Bien, Denis Coeur, l'historien hydraulique avec qui j'ai travaillé, il a dit non, c'est pas comme un Camargue, c'est le modèle grenoblois, parce qu'il y a une tradition d'ingénieur hydraulique à Grenoble qui a servi de modèle pour les canaux de la Camargue. Donc une histoire que vous voyez assez intéressante qui est juste sous nos pieds, mais qui est aujourd'hui relativement oubliée. Et donc qu'est-ce qu'il y avait au début du siècle ? Donc, il y avait de l'agriculture et un petit aérodrome. La Villeneuve est sur l'aérodrome, ici, en fait. Hein. Ça, c'est le dessin qu'a fait Jean-Pierre Androvon. Vous connaissez peut-être un écrivain et peintre de science-fiction qui est grenoblois, qui vit toujours et qui m'a donné ce dessin. Alors, pour comprendre cette situation où agriculture et urbanité s'annule à un moment donné, l'urbanité vient supprimer l'agriculture. Il y a eu un moment très court en fait de coexistence. Et donc quand on parle aujourd'hui d'agriculture urbaine, je vous laisse voir, on est en 74. C'est la Villeneuve de Grenoble.
C'est propriétaire de 2 hectares et demi environ. Et la ville en a accaparé une moitié pour en sortir. Alors maintenant, il reste.
On est à peu près là où on est là.
On est des appartements. Et comme ça, ça me permet de finir mes jours un peu moins tôt. Pour moi, l'avenir est pratiquement choisi, hein. Il va falloir travailler avec les moyens de bord, avec le terrain qui nous reste. En attendant la retraite ou des fois autre chose, on n'en sait rien. Il ne faut pas espérer mourir encore à notre âge, mais enfin, on n'en sait rien.
On faisait la grande exploitation, le culture maraîchère. On allait au marché de l'eau à Grenoble. Et ça se passait pas mal.
La culture a pratiquement disparu. Les trois quarts, on peut dire.
Et s'il avait fallu que je continue mon métier, il aurait fallu installer, il aurait fallu faire des systèmes d'arrosage assez importants.
Tous les fossés qui entouraient la culture là, étaient pleins d'eau à l'époque. Puis avec les assainissements qui sont créés pour les égouts et compagnie, ça absorbait toutes les sources qui se trouvaient dans la plaine. Et on est privé d'eau, pratiquement privé d'eau. Pour la rentrée.
Voilà, donc fin de cette histoire agricole hein, sur laquelle on est, mais c'est assez récent, oui, le film est de 74. Mais heureusement, une belle utopie concrète a été créé avec la ville neuve de Grenoble. Et donc, je vous ai dit que j'avais un diaporama de photos. Donc, je vous propose de vous montrer une série de photos qui va vous dire bien mieux que moi. Pardon, c'est pas ça. Ça va vous dire bien mieux que moi ce qu'est la ville neuve de Grenoble. Les photos d'Honoré Paris sont très intéressantes parce qu'il s'est occupé aussi au monde ouvrier et aux usages ordinaires, en fait. Et vous voyez tous ces rez-de-chaussée qui viennent épaissir le pied de chaque immeuble. Et où il y avait les commerces, les services publics, le sport, etc. Alors c'était compliqué de se repérer, ce qui fait qu'il y avait des numéros colossaux qui désignaient les entrées. Et une des utopies concrètes de la ville neuve, c'est la place des enfants. Et la place des enfants dans l'espace public. Mais la place des enfants aussi dans des instances de communication, d'organisation, etc. La ville neuve était un peu vécue comme un terrain d'aventure, du moins c'est comme ça que les gens la racontent. Et je vous en parlais un tout petit peu parce que ça a un peu à faire avec notre histoire de son. Une des belles, beaux projets qui a été créé, c'est l'idée qu'on ne pouvait pas créer un quartier nouveau sans créer un média, un médium qui débatte ce quartier nouveau. Et donc ça a été une des premières télé par câble européennes liée à un quartier, ça s'appelle la Vidéogazette, où pendant 6 à 7 ans, en fait, il y a eu l'expérience concrète d'un studio vidéo installé au pied de la Villeneuve qui était piloté par des habitants, des associations et ouvert à tout le monde, dont les enfants. Et ça a produit des centaines d'heures d'émissions dont énormément ont été perdus, mais grâce à l'association qui s'appelle la Maison de l'Image et grâce à un financement il y a 10 ans de la BNF, une partie a pu être numérisée, en fait, mais tout n'a pas pu être récupéré. Et donc, ce que je vous propose, c'est justement un extrait de cette vidéogazette qui donne aussi la tonalité de ce qu'était la vie neuve. Un peu dans la. C'est pour voir un morceau d'émission.
Mais pourquoi parle-t-on anglais dans l'Amérique du Nord?
Ben parce que avant on parlait indien, mais quand les Anglais ont tout exterminé les Indiens, et on coupe
mais les bouteilles de pays,
ben maintenant on parle anglais.
Oui. Mais ils vont parler bien des langues.
Oui, on parle de ça par quelques tribus, par exemple comme les Cheyennes, les Sioux, on parle presque partout.
Stop. Ah bon, dans une partie des États-Unis et du Canada.
Stop.
Voilà. Et pour terminer sur la vidéogazette, un autre extrait qu'on a retrouvé, c'est un extrait d'un débat entre le maire Hubert Dubedou. Entre Hubert Dubedou et Alain Carignon, qui a été le maire suivant, donc de bord radicalement opposé, et qui s'oppose sur la vie de neuve. Donc on a fait, lorsqu'on a fait un plateau radio il y a 7-8 ans, autour de cette question-là, on a fait un montage entre débat contemporain et débat d'hier, mais ça vous donne un peu l'idée que dès la fin des années 70, il y avait déjà des débats très forts sur la vie de neuve, lieu réussi ou échec, avec déjà des titrages, faut-il ou pas démolir la vie neuve, dès 81, des grandes manchettes de journaux. Donc cette question de la valeur de la vie neuve est quelque chose qui est très vieux dans la façon dont c'est débattu.
Puisque je prends déjà ce thème de l'autonomie au niveau du conseil municipal, permettez-nous de le pousser un petit peu plus loin sur l'exemple de la vie neuve. Notre volonté, je ne dis pas que nous y avons réussi, je crois même que nous n'y sommes pas encore sur la voie, mais nous y arriverons bien un jour, était de donner aux citoyens qui habitent ici leur part d'autonomie. leur part de responsabilité dans la gestion de l'équipement, leur part d'autocritique dans la façon dont ils utilisent ces équipements, et d'autocritique même à l'égard de ceux qui ne font peut-être pas marcher correctement les équipements.
Vous parlez souvent, M. Carignon, de la Villeneuve, et vous venez de dire maintenant que c'était un progrès, alors que les seules dépenses de fonctionnement que vous vouliez réduire, c'était celles de la Villeneuve. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre le progrès? Et est-ce que vous dites que si la Villeneuve, c'est bien, et que le reste de la ville n'est pas aussi bien, il y a deux possibilités, soit on fait le reste de la ville aussi bien, soit on fait venir la Villeneuve aussi mal que le reste de la ville. Alors, qu'est-ce que vous choisissez?
Rien. Écoutez, je dois vraiment mal m'expliquer. Je crois que j'étais le seul, vraiment très mal, mais j'étais le seul ici à vous dire ce que vous coûtez, parce que je pense qu'il est normal que vous sachiez, finalement. C'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire que je suis opposé et que je veuille réduire les frais de fonctionnement de la Villeneuve. Pas du tout.
Monsieur Dumézou.
Eh bien.
Voilà, du coup, on a fait deux jours de plateau radio sur la question de la Villeneuve et on. Dans le montage final, grâce à une équipe locale qui s'appelle les Films de la Villeneuve, on a mélangé des documents d'archives et des documents plutôt liés au débat qu'on avait, nous, dans ce plateau radio. Alors, j'arrive à la fin de mon intervention. Il est impossible de faire le tour de tout ce qui s'est passé dans le parc. On pourrait parler pendant très longtemps de ce qui s'appelle les écoles ouvertes. C'est des écoles où il n'y a pas de barrière à la cour. Laure, qui ici travaille sur ces questions-là, pas que sur la Villeneuve, mais je veux dire sur ces questions-là. C'est une très belle. L'idée qu'il fallait, avec la Villeneuve, se réinventer la pédagogie, les formes de faire classe. Des instituteurs, des collèges réfléchissaient à changer les formats spatiaux des classes. Parce qu'en changeant la disposition spatiale, peut-être en ne se mettant pas en frontal comme je le fais là, peut-être qu'on changeait le rapport enseignant-enseigné. Et puis en ouvrant le parc à la cour de récréation ou la cour au parc, ça changeait beaucoup de choses. Alors juste une petite expérience, vous avez ici une cour de récréation. Bon, la barrière, je ne sais pas pourquoi elle est là, c'est des sculptures, peut-être parce qu'elles n'étaient pas sèches ou installées, je ne sais pas. Mais là, vous avez la cour de récréation et l'école d'architecture, on est là en fait. Si je pense que là, je verrai mon doigt là, comme ça, hein, on est là. Ou là peut-être. Ça, c'est un très bel objet qui s'appelle la patate. La patate, c'était une belle utopie constructive, c'est-à-dire en parallèle où la Villeneuve se construisait, ou finissait de se construire, un enseignant qui s'appelle Sergio Ferro, réfugié politique du Brésil, enseigne ici et essaye de repenser le rapport à la production en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la production architecturale, c'est toujours les architectes qui conçoivent et les ouvriers qui exécutent. Entre guillemets, c'est-à-dire que le dessin vient avant le chantier. Et donc il a dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas beaucoup plus mélanger les deux, le dessin et le chantier? Et l'expérimentation radicale qu'il a fait, c'est, peut-on concevoir une architecture sans dessin préalable et sans architecte qui pilote? Et ce projet a été réalisé, ça s'appelait La Patate, il est là devant l'école d'architecture, il a été là pendant 2-3 ans, et il a servi de lieu pour les enfants, de barbecue, d'ateliers d'artistes, etc., etc., pendant 2-3 années. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que cette question de la conception des lieux et de certaines utopies, en fait, collectives, traversait à la fois l'origine de la Villeneuve, mais a traversé, que ce soit la Vidéogazette, les écoles ouvertes ou l'école d'architecture, des vrais questionnements sur la façon dont on fabrique du collectif et du collectif urbain avec sa spatialité. Alors, celui qui a créé le Cresson avec Jean-Jacques Delettré s'appelle Jean-François Augoyard. Il a fait sa thèse et il en a fait un livre, d'ailleurs, dans la collection que dirigeait Françoise Chouet, qui est décédée il y a deux jours. Un livre sur, justement, la Villeneuve. Un livre sur lequel il analyse la façon dont chacun fabrique son cheminement et en quoi ce cheminement était signifiant de la personne, de nos modes d'habiter, de certaines utopies, de certains possibles. Donc c'est un très bel ouvrage, vous voyez, qui nous invite au vagabondage et à regarder peut-être l'urbanité différemment que la façon dont elle est conçue habituellement et peut-être différemment aussi dont la sociologie urbaine à l'époque regardait les pratiques habitantes. Alors aujourd'hui, ce beau parc, eh bien, il pose plusieurs problèmes, en particulier pour le lac, parce que le lac est un vrai lieu d'aventure l'été, pour ceux qui s'y baignent et tout, mais il est interdit de baignade, parce que l'eau n'est pas contrôlée, le parc ne peut pas être suffisamment nettoyé, l'eau dépend en circulation, enfin, il y a tout un problème d'hygiène qui fait que la municipalité ne peut pas autoriser, sans traiter le problème d'hygiène, la baignade. Et donc, il y a un grand projet qui est le projet de refaire le lac, en fait, pour le rendre baignable. Mais voici le projet, hein, tel qu'il est prévu, en fait. Et là, de ce que je vais en dire, j'en fais ni une critique ni un éloge. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se confronte à deux écologies oubliées. La première, c'est l'écologie de la plaine alluviale. Parce qu'en fait, on est sur des nappes phréatiques. Et donc, il suffirait de prendre l'eau dans les nappes phréatiques, qui sont très, très à 2-3 mètres, hein, pour, j'irais, faire une espèce de boucle ou prendre de l'eau, etc. Le problème, c'est qu'on a des usines chimiques du côté de Pont-de-Clé qui rejettent et qui fait que nos nappes phréatiques, ici, sont polluées. Elles ne sont pas toutes polluées de partout sur Grenoble, mais celle-ci est polluée. Et donc, ce n'est pas sanitairement correct d'utiliser l'eau qui est là. Et du coup, se pose la question, mais faut-il utiliser l'eau du robinet pour un lac aussi gigantesque, l'eau municipale pour une quantité d'eau aussi grande? Donc, vous voyez, première écologie sur laquelle on pourrait s'appuyer pour faire le lac, qui est de retrouver cette histoire, en fait, de l'eau qui est présente sous nos pieds. Mais c'est compliqué. Deuxième écologie qui est compliquée, c'est l'utopie sociale dans l'espace public pour tous. Pourquoi ? Parce que, ben, avec les réglementations actuelles des lieux de baignade, des bassins, on ne peut pas laisser ouvert un bassin sans barrière et sans surveillance. Il faut des horaires d'ouverture avec des surveillants. Et donc, comment est-ce qu'on retrouve la belle utopie d'avant, qui était faire que le lac soit, il suffit d'y aller pour se baigner, et qu'il ne faut pas forcément attendre la bonne horaire, qu'il ne faut pas forcément trouver le surveillant de baignade qui soit présent, etc. C'est les deux difficultés, en fait, auxquelles se confronte la municipalité pour essayer de réinventer ce lac, et qui, quelque part, montre qu'il y a deux écologies profondes du territoire qu'on a du mal à retrouver facilement. Une, sa grande histoire environnementale qui fait que c'est un territoire d'eau, et deux, son histoire de belle utopie sociale qui fait que l'espace public, c'est aussi un espace d'aventure, un espace de liberté, etc., etc. Mais aujourd'hui, on est en 2025, on n'est pas au début des années 70. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on peut expliquer ça. Voilà, alors l'utopie agricole est peut-être plus compliquée à retrouver aujourd'hui, enfin, l'histoire agricole. Mais voilà, alors, bon, écoutez, je ne vais pas. Donc pour moi, je trouve intéressant d'essayer de retrouver dans chaque territoire des histoires profondes en se disant, mais comment l'évolution du territoire, non pas va retrouver les anciennes situations, mais est capable de montrer des signes de cette longue histoire, dont les utopies sociales, bien sûr, de la Villeneuve, de façon à ce qu'aujourd'hui, ben, on n'ait pas baignade interdite, ou alors qu'on assume que la baignade interdite, bon, on va s'y baigner quand même, quoi. Voilà, je vous remercie. Et je sais que parmi vous, beaucoup connaissent très bien ce territoire, enfin la Villeneuve, peut-être y ont habité, donc c'est aussi l'occasion ça sera l'occasion pendant la semaine de partager vos... Voilà, c'est une histoire possible de la Villeneuve que je vous ai racontée.